conditions actuelles, moins 7 degrés.
À Sherbrooke, en Estrie, CFLX 95.5 FM. Pas pire pantoute.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et finances où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Et oui, notre thème, bien sûr, de cette émission de Logement droit, Félix Leclerc, toujours en colère, et aussi on a raison de l'être. Une émission bien remplie aujourd'hui, un plaisir chaque deux semaines de recevoir justement des personnes engagées, inspirantes. Florence et Manon, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, toi?
Ah ben, quand vous êtes là, c'est toujours merveilleux.
On est toujours contents de venir aussi.
Et justement, on rappelle faire plaisir à notre ami PSPP que nous sommes sur un territoire, parce que semble-t-il, c'est que Mario Mercier me disait que ça fait fâcher PSPP qu'on parle qu'on est sur des territoires non cédés, mais bienvenue. Je suis content de le dire à chaque semaine que justement nous sommes sur ce territoire de Ndakina, la nation Abenaki, Wabanaki, donc, et colonialisme, bien sûr, qui se fait, puis justement, on en parlait avec un autre ami aussi, M. Barrette, Jolet Barrette,
oui, ah, oui,
le colonialisme, mais aussi souligner très rapidement aussi deux événements hier qui sont arrivés, évidemment, en Colombie-Britannique, à Tumbler Ridge. Personne ne savait où c'était avant hier, là, mais je pense qu'il y aurait même mieux que ça, qu'il soit connu autrement que par ces 9 personnes de tout âge qui sont décédées. Sans oublier, justement, qu'il y a aussi dans une communauté autochtone, Kitigan-Zibi, alors aussi qu'un père a tué ses 2 enfants. On pourrait faire un grand débat là-dessus, aller au-delà de tout ça, mais je pense qu'on peut penser à toutes ces familles-là, oui, comme telles. Et puis peut-être ça peut amener d'autres sujets aussi sur bien des choses, mais on va passer au vôtre qui est toujours pertinent. Alors, mesdames, on se donne le go.
Oh non, s'il vous plaît, pas le go une autre fois.
Non, le go.
Le go, OK, parfait.
Non, le go, il s'en va, là.
Oui, le go, c'est fini. Bon, la game de Monopoly, on va le souhaiter, elle se termine en même temps. Oui. Donc, pour ça, aujourd'hui, Alain, la chronique se poursuit sur le thème de l'enquête profonde, mais se présente sous le signe du péri-burnout, expression chère à notre camarade Guédail, qu'on salue aujourd'hui, et de la nécessité de travailler ou de se débrouiller pour survenir à nos torieux de besoins. C'est donc fatigué, équipé d'une chronique patentée, mais sentie et au final riche en contenu, que nous t'arrivons ici ce midi, Alain, avec du plaisir malgré tous les événements qui caractérisent la fin du monde que tu as nommé notamment en début d'émission. Donc, on va commencer brièvement sur notre travail d'enquête sur le logement. Je t'avertis, ça risque de peut-être déraper cette première partie.
J'aime ça.
Ouais, moi aussi. Donc, puis on va peut-être aussi traiter. En fait, on va traiter brièvement de la consultation qui est présentement en vigueur. Présentement en cours, en fait, à l'Assemblée nationale sur le PL1 là, de Simon, dont tu as parlé il y a quelques minutes.
Et consultation est un mot, parfois, qui devrait être transformé.
Oui, après ça, on pourrait débattre encore une fois si c'est vraiment une consultation. Mais bon, on va employer les mots qui sont écrits.
On pas le choix.
Qui sont écrits, là, pour le...
Voilà. De toute façon...
Pour être de bonne foi, là.
De toute façon, maintenant, on va nous parler de c'est quoi une consultation telle qu'elle se déroule actuellement. On verra.
Oui.
Quoi, il en retourne.
Exactement. Fait que dans le fond, on est ici pour parler. Aussi bien dire ce qu'on a à dire. Donc, je passe la parole à notre très chère Florence.
Oui, donc, comme Manon l'a annoncé, on voulait parler d'abord de nos enquêtes sur le logement, puis un peu plus précisément de notre projet de cartographie des évictions.
Oui.
La carto des évictions, c'est un truc qu'on mène un petit peu depuis environ un an, puis qu'on compte poursuivre. En fait, ce projet-là, pour nous, ça fait partie un peu constituante du CHIP. L'idée, c'est de poursuivre le travail de cartographie tant qu'il va falloir le faire. Donc, pour les auditeurs, pour toi un peu Alain aussi, même si on s'en est déjà un peu parlé, c'est quoi la cartographie des évictions? La carto des évictions, ça a commencé par des ateliers de cartographie avec un groupe de personnes intéressées par les cartes qui s'est réuni là autour du CHIP, mais aussi concernées par les augmentations de loyers, évidemment, et par les évictions. Mm-hmm. On a découvert ensemble plein d'outils intéressants, dont le petit manuel de carto et ensuite le contre-atlas du groupe de géographie critique, le collectif Orango Tango, qui est un groupe d'Amérique du Sud, mais qui a fait des liens là, un peu partout dans le monde, qui offre toutes sortes d'outils pour faire des cartes au sein des communautés qui sont utiles au monde, dans le but, entre autres, de créer des maps qu'on partage, des univers visuels aussi communs, qui sont utiles pour nos besoins, mais aussi pour nos objectifs. Ici, dans notre cas, on parle de garder la trace des évictions, de savoir qui fait ça, comment ça se passe, qui ça affecte, et ça déplace les gens vers où aussi dans la ville.
Aussi, oui.
Pour faire ça, on a commencé à faire des ateliers pratiques assez simples, là, où les gens partent dans un secteur du centre-ville, carte à la main, calepin, crayon, pour jaser avec le monde et inscrire les histoires d'éviction sur la carte. On place un numéro sur la carte, on place le même numéro dans le carnet de notes, puis hop, on inscrit l'histoire ou les informations que les gens nous donnent quand on discute. Désormais, on a l'info inscrite, prête à être transposée, par exemple, sur une map interactive ou dans un projet de map créative à partager dans une mobilisation ou dans un autre moment. À travers ça, on s'est mis à collectionner des cartes qui situent aussi les incendies et l'état des lieux au moment de les cartographier. Okay. Est-ce que ça a été réparé à la suite de l'incendie, le building? Est-ce que c'est laissé comme tel? Est-ce que c'est détruit? Qu'est-ce qui se passe après un incendie? Parce qu'on sait, au centre-ville, entre autres, il y en a eu beaucoup, beaucoup dans les dernières années.
Effectivement, oui.
Ouais, fait que pour nous, ça fait aussi partie du phénomène des évictions. Même si on est évincé par le feu, on est un petit peu aussi évincé par la négligence des propriétaires, souvent.
Oui.
Notre but, ultimement, c'est d'en venir peut-être à rassembler le plus de données possible pour produire des cartes interactives précieuses, comme celle, par exemple, du Parkex Anti-Eviction Mapping Project. On peut trouver sur le site web de ce projet-là une carte interactive des évictions, donc qui recense les évictions à Parkex depuis très longtemps, parce qu'en plus, ce groupe-là sont allés dans les archives de l'Association des locataires aussi.
OK.
Mais aussi une carte vraiment intéressante nommée le Community Power Map, qui recense aussi toutes les luttes qui ont été gagnées par les locataires. Donc, on a une carte un petit peu plus triste à voir, mais aussi une carte qui montre qu'on peut gagner des luttes.
Effectivement, faut des fois, faut voir le bon côté. Là.
Il y a plein de projets de anti-eviction mapping, notamment aux États-Unis. Puis, si ça vous intéresse, il y a un site web vraiment intéressant à consulter, le antievictionmap.com. Mais les cartes, là, si on revient un petit peu en arrière dans notre projet de cartographie des évictions, c'est quoi puis c'est à qui? Généralement, ça vient d'où les cartes? Pour faire vite, les cartes, c'est l'outil souvent de ceux qui décident. On fait des cartes pour prendre des décisions ou pour connaître un territoire. Historiquement, les États modernes ont produit des cartes pour assurer un contrôle sur leur territoire, pour pouvoir le sillonner, s'y situer, bref, le posséder, pour utiliser une expression qui serait très parlante. Pour produire des cartes, il faut avoir deux choses. Des ressources, parce que c'est pas simple, il faut le travail d'échelle, la minutie, l'information, les outils pour les tracer, tout ça, et des objectifs. On fait des cartes pour répondre à nos objectifs. À titre d'exemple, les cartes les plus détaillées de Sherbrooke au début du 20e siècle, ce sont les Insurance Maps. C'est-à-dire que c'est les cartes qui ont été faites au compte des compagnies d'assurance. Les Insurance Maps de Sherbrooke de 1907 et de 1953 sont téléchargeables gratuitement sur le site de la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Très intéressant à consulter.
Ben oui, effectivement.
Mm-hmm. Elles sont fascinantes et on peut y trouver, surtout sur celle de 1953, tout plein d'habitations.
C'est l'année que je suis au monde.
Ah oui, hein?
C'est une bonne année, ça.
c'est une année où on a publié de très belles maps de Sherbrooke.
Ah, c'est ça, c'est parce que ça arrivait au monde.
Puis donc, c'est ça, on peut trouver là, tout plein d'habitations qui sont actuellement encore habitées ou laissées à l'abandon, tiens donc, et qui pourraient être rénovées.
Oui.
Mais que la guilde des propriétaires a tendance à laisser mourir pour favoriser la fausse solution à la crise qui est martelée à tout vent de la construction de neuf.
Ben oui, bien sûr. Payant-payant.
Oui. Comprenez-moi bien, là, je ne suis pas du tout défendresse du patrimoine. En tout cas, très peu. Je m'en tape un petit peu. Du cachet de la Payton, par exemple, ou de l'insigne lumineuse du Charlie et de sa valeur vintage.
Oui.
Je ne parle pas du tout de conservation, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais je parle juste d'avoir des logements et des lieux publics, qu'on arrête de se faire jeter dehors des lieux et des quartiers. Les planchers peuvent bien être vernis comme dans une polyvalente, les murs peuvent être verts URSS si vous voulez, tant que la lumière est bonne puis qu'on puisse fabriquer une vie, du beau, une place où être ensemble.
Oui.
Bon, là, je m'éloigne parce qu'on parlait de cartes. Des cartes, c'est à qui? Mais aussi, c'est pour qui? Je vous lance une dernière petite piste. Sur le site web de Entreprendre Sherbrooke, qui est un organisme paramunicipal, on trouve le service Analyse et Localise, pour le dire comme eux le disent, où on peut trouver une série de cartes interactives qui permettent aux entrepreneurs de faire une étude de marché ou de trouver un local libre pour ouvrir un commerce au centre-ville ou ailleurs là, dans la ville. Mais pas besoin de vous spécifier qu'on ne peut pas bénéficier de ce genre de service quand on cherche un logement ou qu'on veut organiser un projet de coop.
Ah, OK.
C'est ça. Ben, en fait, on pourrait en bénéficier, mais c'est peut-être pas les données dont on a besoin là, de savoir combien les gens dépensent au dépanneur.
Oui.
Donc, la contre-cartographie, là, j'y reviens. Et là, j'ajoute le petit mot « contre ».
Contre, OK.
Parce que nous, au CHIP, ce qui nous a intéressés, puis notre premier amour un peu, c'est comment on peut détourner des cartes, utiliser des cartes qui ont été faites avec les ressources des décideurs, mais pour les adapter à nos propres besoins.
Ah, oui.
Donc, si les cartes, c'est généralement les outils des puissants, on peut aussi aisément les récupérer et puis en faire un peu ce dont on a besoin pour s'autonomiser. En gros, les cartes, c'est nos amis. Ça sert entre autres à construire des savoirs partagés et donc construire aussi notre capacité d'agir. La contre-cartographie, ça peut être très sérieux, mais ça peut aussi être ludique. On peut détourner des cartes pour leur donner des nouvelles fonctions. Il y a matière à s'amuser et à s'organiser. Vous pouvez aussi recycler des cartes physiques gratuites, par exemple, qui sont disponibles, les cartes touristiques de Sherbrooke. On peut utiliser toutes sortes d'icônes. Le site web d'Orangotango en offre aussi. Par exemple, si on voudrait situer toutes les violences policières dont on a entendu parler au centre-ville, on pourrait utiliser des icônes pour faire une cartographie, pour aider les gens à savoir comment naviguer les lieux. Il y a toutes sortes de projets auxquels on peut penser. Si on ressent des besoins dans la communauté, il y a des cartes qui peuvent souvent y répondre. On vous invite aussi à venir lors d'un prochain atelier de cartographie des évictions parce qu'il y en aura plein d'autres, mais on n'a pas pour l'instant de date à vous donner.
OK. Là, j'étais allé un matin, là, justement, que vous partiez en prospection, là, puis c'est intéressant. Il y a vraiment... puisque vous disiez aussi, c'est que même des gens, quand ils vous voient avec des feuilles, puis des gens qui vont vous voir...
Oui, oui,
oui.
Les gens ont beaucoup de choses à raconter.
Bien, c'est ça. Ça veut dire que c'est un besoin, quelque part, de trouver une oreille et un cœur aussi.
Absolument. Puis nous, on a commencé aussi à faire les cartes parce qu'on était souvent une oreille, ou en tout cas, lors de mobilisation, les gens venaient nous raconter les histoires, mais on avait l'impression que ça se perdait un peu parce que les gens ont besoin d'écoute, mais on se met à multiplier les histoires. On n'a pas de manière de montrer visuellement c'est quoi le poids de ces histoires-là, puis de montrer comment on pourrait s'organiser pour changer un peu les choses.
Oui, puis une carte, c'est vraiment parlant, là, comme notamment une des cartes en cours par le CHIP, c'est identifier les immeubles d'un grand propriétaire qu'on ne nommera pas. Mais tu sais, juste quand on regarde la carte avec tous les petits points coloriés en vert, c'est frappant, là, on n'a pas besoin d'arriver juste avec des chiffres. Mm-hmm. Tout le monde comprend là, l'expansion que ce propriétaire peut avoir au centre-ville notamment.
Oui, puis la situation de concentration de la propriété devient très, très claire. Donc voilà, au départ, je voulais aujourd'hui commencer la chronique en vous donnant des chiffres là, sur la situation du logement à Sherbrooke, mais en cours de route, j'ai carrément abandonné. Selon les derniers chiffres que j'ai vus, on serait à moins de 1% de taux d'occupation depuis un bon bout.
Oui.
Le prix des logements a doublé en 5 ans. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de plus de chiffres pour clarifier la situation.
Non, non, c'est tout va très bien, Mme la Marquise. Tout est sous contrôle.
ce dont on a besoin, par exemple, c'est des logements, en fait.
Oui.
Puis printemps... Oups, excuse-moi, Alain.
Excuse-moi. Oui. Mais des fois, j'embarque, puis je...
À raison.
Si vous voulez pas que je parle, vous me dites, là.
Non, vas-y.
Les logements sociaux, puis ce mot-là, ils sont bâtis, là, des logements.
Mm-hmm.
Mais...
Ouais.
À quel prix?
C'est ça. Bien, les logements sociaux, c'est une solution. Ça fait partie des solutions auxquelles on peut penser. Nous, ce printemps, on a pour projet d'organiser un atelier d'éducation populaire sur la situation du logement et la propriété, mais aussi pour avoir une discussion sur c'est quoi les solutions à la crise perpétuelle, puis c'est quoi les solutions qui viendraient des locataires, justement, ou des gens qui sont solidaires de la situation des locataires puis de leurs conditions, puis pas des investisseurs ou des gens qui n'ont pas d'intérêt à...
Non, c'est ça. Ben, ils ont intérêt, oui.
Oui, c'est ça, des intérêts financiers.
Intérêt, oui.
Fait que le but de ces ateliers-là, ça va être de parler ensemble de ce serait quoi les solutions, puis de quels moyens on aurait besoin pour les réaliser, ces solutions-là. Au lieu de se faire dire tout le temps qu'on n'est pas réaliste, que nos solutions n'ont pas de bon sens, faisons-là les listes de ce dont on a besoin.
Exactement.
Pour les réaliser. Donc, restez à l'écoute là, dans les prochaines chroniques. On devrait vous parler éventuellement d'une date pour cet atelier-là.
C'est pour ça que quand vous parlez de logement, j'en connais un petit peu. C'est pour ça que les oreilles me titillent. Puis j'ai comme 20 ans derrière de moi là, de d'intervention.
Oui, on est content de pouvoir parler de logement avec toi, en fait. Mais bon, parler de cartographie des évictions, ça m'a amené à vous dire ceci. Camarades, cartographions, Rencontrons-nous et surtout réseautons. Faisons ce que tu fais de si bien, Alain, nous réunir,
oui.
Tout le monde ensemble, puis tisser des liens. Et c'est ici que ma dérape annoncée par Manon commence.
Ah, on aime ça!
Parce que la droite, elle, est réseaute.
Oui.
Avez-vous vu la rencontre du 25 février à l'invitation de Guillaume Rousseau, prof de droit constitutionnel à l'UDS, du jeune influenceur de droite là, qui écrivait les discours de Legault dernièrement, du type complètement terrorisant de l'organisme de bienfaisance de droite chrétienne Transforme Québec, qui est situé ici à Sherbrooke d'ailleurs, là. Un beau meeting de réseautage d'extrême droite là, qui s'annonce au QG de l'entrepreneuriat.
Oui.
Moi, j'ai deux choses à vous dire là, à propos de Transforme Québec et de cet événement de réseautage là, qui s'en vient. Uno, j'ai consulté leur site web et ceux de leurs partenaires, des évangélistes, riches, 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 qui ramassent les dons pour le bien commun, disent-ils.
Uh-huh.
Un bien commun qu'ils se gardent vraiment de nous décrire et on parle clairement pas des conditions de vie dignes pour tout le monde. Deuxièmement, j'ai presque honte d'être un peu surprise qu'on en soit là, et ça, c'est ma propre fibre catholique qui s'exprime. Mais voilà, le QG de l'entrepreneuriat se fait l'hôte de l'extrême droite chrétienne. Au mois de février. Ben oui. T'as l'argent, viens-t'en, ça nous fait plaisir de t'accueillir.
On se croirait aux États-Unis, quasiment.
Ben, la stratégie semble être du même ordre.
Oui.
Bon, de toute façon, là, les pauvres, on les repousse aux limites au centre-ville. Ça fait un bout de temps qu'on commence à voir le motif, là, dans les ascenseurs, dans les escaliers, pour qu'ils fassent peur aux madames, puis qu'on fasse travailler la police.
Ben oui, il faut bien qu'elles fassent quelque chose, hein?
Ben oui. Eh ben, moi, je me demande, en fait, quand est-ce qu'on se réunit pour leur faire comprendre qu'ils sont pas les bienvenus à notre centre-ville, là, ces gens-là.
Oui.
Puis pour vous donner une idée de quoi qu'on parle, là, et avec qui les grands défenseurs de la laïcité québécoise anti-musulmane réseautent, là, parce qu'ils appelons un chat-chat, je vais vous lire un extrait du site web d'un partenaire de Transforme Québec. Les créateurs de ce site croient en Dieu, aiment Jésus et veulent être de bons êtres humains. De plus, ils veulent que toute personne au Québec puisse expérimenter l'amour de Dieu et connaître Jésus en plus d'être un bon être humain.
Amen.
Pour nous, c'est des choses inséparables et nous espérons pouvoir poursuivre cet objectif avec vous.
C'est quelque chose, hein?
Oui. Alors,
moi, je me crois ça en 1953.
Ce qui promeuvent ces gens-là, en fait, c'est le leadership. C'est un soi bien pomponné, spirituel, un bon humain qui a de l'impact.
Mm.
Ça rappelle vraiment un de nos personnages préférés du centre-ville, le leader du collège MREX, le bienfaiteur de l'OBNL. Ah, cette forme d'entreprise-là, elle n'est pas anodine, notons-la. De l'OBNL immobilière Ikigai Impact, qui a fait de Sherbrooke son Eldorado. Ce qu'ils ont en commun, ces leaders full plein d'impact, l'horizon de tous ces sociopathes qui sont complètement high on money et de ceux qu'elles font rêver, je vais peut-être vous surprendre en le disant, mais c'est la nation. C'est cette aspiration, ce moteur psychique, magique et envoûtant, ce surplus fantasmatique après lequel il faut courir. Mais la nation, c'est justement une manière d'attraper une affaire très évanescente, là, une affaire que toute personne, en réalité, ne peut jamais avoir. C'est la toute-puissance, justement. C'est le droit inaliénable sur les autres parce qu'on est nous. C'est le moi ou le on unifié, l'individu ou le pays, qui est en pleine possession de son pouvoir. C'est Donald Trump qui veut le Groenland ou PSPP qui veut faire un pays avec Trump.
Oui.
C'est le moi exalté qui ne négocie qu'avec un autre moi tout aussi exalté que lui. C'est le moi exalté qui ne négocie qu'avec un autre moi tout aussi exalté que lui. Oui, tout-puissant. J'ai le goût de dire le moi viril.
Oui.
Ce mois-là, du bien commun patenté, de la transcendance de Jésus, il est vraiment loin du travail du soin, d'une éthique de la mutualité, du don, du care et tout ça. C'est bien plus la logique qui a propulsé la race comme machine d'exploitation capitaliste sans limite, qui a justifié la domination par la race, par le genre, par la classe, qui a justifié l'exploitation là, dans tout le développement capitaliste. Et c'est sur ce surplus-là qu'on n'arrive pas à s'expliquer rationnellement dans l'équation pourquoi calvaire ils dérapent de même ces gens-là.
On reste dans le religieux.
Absolument. La nation, le moi exalté, là, ce désir-là irrationnel de puissance, de contrôle, c'est là-dessus que j'ai fini ma soirée hier d'écriture de la chronique. Et c'est là-dessus aussi que je passe la parole à Manon pour la suite.
Oui, puis ça tombe bien que tu finisses sur ces mots, Florence, parce que parlant de la nation et de la dérape qu'il y a autour de ce concept-là, tu dois savoir, Alain, un peu comme je l'ai annoncé en début d'émission, que Simon Jolin-Barrette a déposé l'automne dernier un projet de loi constitutionnelle.
On le salue d'ailleurs, M. Barrette.
Exactement, mieux connu comme projet de loi 1 ou PL1, que je risque d'utiliser pendant ma chronique. Comme qu'on sait, Simon s'est donné le défi, sous la recommandation de Guillaume Rousseau, encore lui,
oui,
de doter le Québec d'une constitution.
Lui, il a viré à droite en sacrifice, Rousseau, hein?
C'est un euphémisme.
Oui, c'est ça.
Donc, bref, comme je disais, là, sous la recommandation du cher Guillaume, Simon s'est donné le défi de doter le Québec d'une constitution, et ce, avant de se retrouver au chômage l'automne prochain. Certains diront qu'il l'a écrit tout seul dans son bureau. Pourtant, je tiens à nommer qu'il était accompagné d'un sage, le professeur Patrick Taillon, ex-membre du comité de sages sur l'identité de genre. Tout ça est rassurant.
Ben oui, ça fait un peu...
Essentiellement, si le projet est adopté, il édictera la Constitution du Québec, la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec et la loi sur le Conseil constitutionnel. Il modifiera différentes lois, dont la Charte des droits et libertés de la personne, et il prétend également modifier la loi constitutionnelle de 1867. Bref. Plusieurs ont critiqué avec raison le projet de Simon.
Ben oui.
Menace au droit à l'avortement, attaque au droit d'Esther en justice, menace aux droits et libertés en mettant les droits collectifs de la nation québécoise hiérarchiquement au-dessus des droits dits individuels, pour ne nommer que ceux-là. L'idée de cette chronique, c'est pas aller dans le détail du pourquoi et du comment que ce projet est de la marde. Nombreuses personnes beaucoup plus compétentes que moi l'ont fait. Je réfère les auditeurs, auditrices au Barreau du Québec, l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador,
oui.
Justice Trans, plusieurs profs d'UNI, dont notamment Louis-Philippe Lampron, Geneviève Bois, Martine Valois et Noura Karas-Zivan, pour ne nommer que ceux-là. Ceux et celles-là, en fait. Toutefois, malgré tout le mal que je pense de ce projet de loi-là, je geek à fond sur la commission qui se déroule actuellement, où plus d'une centaine de personnes, groupes, associations, se font entendre sur le projet. Certains diront que j'ai développé une mauvaise dépendance. Je dois dire, Alain, que ce qui se passe là-bas est weird et inquiétant.
Oui.
Le pourquoi j'ai cru important de faire une chronique là-dessus.
Effectivement.
En fait, il faut comprendre, il y a quand même une game habituelle qui se dessine dans toutes les commissions par... parlementaire. En fait, c'est comme normal que les groupes entendus représentent l'ensemble des points de vue acceptables, et encore, pour laisser croire que le ministre est donc bien conciliant et raisonnable.
Mais oui.
Donc, faut comprendre que les gens vont, qu'il va y avoir des gens qui vont venir applaudir le projet,
ah oui.
Alors que d'autres vont venir recommander de le jeter à la poubelle, et peut-être quelques personnes qui se situent au chemin mitoyen. Un peu comme une série Netflix, le scénario qui se présente n'a rien de surprenant. Toutefois, comme dès le début, j'ai pris connaissance de l'horaire et des groupes qui étaient invités, puis j'ai été surprise de voir que Droit Collectif Québec, un groupe qui est situé à Sherbrooke, ainsi que la Société nationale de l'Estrie étaient tous les deux invités à deux dates de différence, puisqu'à mes yeux, il s'agissait un peu du même monde.
Ben oui.
Ils ont le même directeur général, ils partagent les mêmes bureaux, les mêmes employés, donc ça m'avait comme un peu titillé, puis j'étais curieuse de prendre connaissance des autres groupes et des autres... les autres personnes qui étaient invitées. En écoutant les premières journées de la consultation et en consultant certains mémoires, j'ai constaté que ça allait plus loin que seulement la présence doublement de Droit Collectif Québec et de Société nationale de l'Estrie.
Mm-hmm.
En fait, j'ai constaté que plusieurs autres groupes participant à la consultation et défendant le projet de constitution, il faut le nommer, sont noyautés par les mêmes individus.
Exactement.
Donc, je vais vous citer quelques exemples sans aller dans tout le détail de ma recherche. Pour ne nommer je vais arriver avec trois exemples. Donc, certaines personnes participent à la consultation deux ou trois fois en empruntant divers chapeaux. Il y a Marie-Claude Girard qui a fait un mémoire à titre personnel, en fait à titre de retraité de la Commission canadienne des droits et des libertés. Toutefois, cette même Marie-Claude Girard a également rédigé le mémoire du Rassemblement pour la laïcité qui était présenté dans la même journée. Là, c'était un peu dystopique. La madame était assise deux fois avec deux mémoires différentes.
OK, bon. C'était qu'elle avait la même fait, ça?
Non, parce que la deuxième fois, elle parlait moins, mais elle était aussi présente en arrière-plan quand son conjoint est venu présenter son propre mémoire. Sinon, il y a aussi des groupes qui ont été créés spécialement pour la Constitution, on dirait, vu que, mettons, ils sont créés en 2025 pour être invités à la consultation en février 2026, avec comme seul fait d'armes, Alain, leur mémoire pour la dite consultation. Je vais aller plus en détail. Donc, il y a le fameux collectif Amitié et mémoire interculturelle au Québec. Je sais pas si ça te dit quoi. Moi, ça me disait rien avant de lire...
moi non plus, non, mais...
Mais bref, ce machin-là, là, il a été fondé par Vincent Vallée en juillet 2025, approximativement. Ce collectif a présenté son mémoire hier, donc c'est tout frais, pour défendre l'idée d'inscrire les nations autochtones dans la Constitution du Québec. Bien que l'intention est louable, l'idée n'est pas de venir discréditer cette idée-là, c'est plutôt que, faut nommer, c'est un groupe composé d'Alloctone, créé juste à temps pour le projet de loi, qui semble venir un peu jouer la carte du ministre pour trouver...
Comme par hasard.
Pour trouver, je dirais, des personnes pour parler en faveur de la question autochtone qui est en faveur du projet de loi. Toutefois, il faut quand même nommer que M. Vallée était également présenté une autre fois pour l'Institut de recherche pour le Québec, dont le directeur de recherche est Guillaume Rousseau. Encore lui.
Tout est dans tout.
Donc, bref, on voit qu'il y a déjà des petits liens. J'ai vraiment pris ces deux exemples-là pour un peu démontrer, Alain, qu'il y a des liens cringe qui unissent les groupes qui défendent le projet de constitution en ce moment à l'Assemblée nationale. Je pourrais encore continuer longtemps, et si les gens sont intéressés, je vous invite à nous écrire au CHI, parce que j'ai beaucoup d'autres détails. Je t'ai d'ailleurs donné un document à cet effet que tu pourras lire chez toi ce soir si t'as le goût de si t'as de la misère à t'endormir.
Oui, c'est ça.
Avoir plus de misère à t'endormir.
Oui, ben, c'est ça. C'est parce qu'il fallait que je prenne d'autres pilules pour calmer ma pression, là. C'est ça, le problème, là.
Moi, je voudrais pas faire ce problème-là. Mais bref, je vais vraiment conclure là-dessus parce que je crois que tes prochaines invités sont présentes, mais on finit par se perdre, mais je voulais un peu soumettre aux auditeurs, auditrices, mon impression. En fait, c'est que je crois vraiment qu'une nébuleuse identitaire qui travaille très fort en ce moment pour créer un sentiment d'adhésion à ce dangereux projet de constitution. Oui. Fait que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ces gens-là, qui noyautent différents groupes, travaillent pour que cette constitution soit adoptée avec un sentiment que la société civile est derrière ça.
En fait, ces gens-là se prennent littéralement pour la société civile au grand complet. Là,
exactement.
Pense que c'est
exactement. Puis moi, bien honnêtement, je suis terrifiée que ça arrive.
Mais toi, t'es pas seule.
Oui, parce que au-delà de ça, là, certes, c'est la constitution caquiste, mais il faut comprendre que si le PQ y rentre bel et bien à l'automne prochain, tout ce beau monde-là va être tout aussi proche du pouvoir. Oui. Et si constitution il y a, elle sera maintenue.
Exactement.
Ça va être complètement... En tout cas, ça risque d'être une catastrophe.
C'est ça.
Donc...
C'est changé. 4 ans, on a 4 ans, tu prends une pièce, là. C'est, puis même, c'est dangereux, là. Oui. C'est effectivement... C'est très éclairant, tout en étant, évidemment, mais c'est la vérité, malheureusement.
On aimerait ça venir raconter autre chose, vraiment.
Ben oui, c'est ça, la belle histoire d'un Québec qui respecte toutes les personnes comme telles, qui donne la place aux plus démunis, mais on va attendre encore un peu.
Non, c'est ça. Ben, on va essayer de créer des milieux au moins qui sont accueillants
mais,
à notre échelle.
C'est ça, c'est par votre engagement, comme vous dites, tout à l'heure aussi, je vais avoir... Les personnes engagées aussi au niveau d'itinérance. On parle de logement, on parle de plein de choses comme telles, là. Et puis, vous êtes inspirante. Puis, vous êtes des, comme, je ne dis pas ça pour être fin, là. Vous êtes inspirante, vous êtes engagée. Puis, c'est ça qui est le but de l'émission, c'est de donner les vraies affaires, mais aussi de donner l'espoir qu'il y a des gens qui se tiennent debout. Puis dans votre trip ben, de fin de soirée, une petite chanson qui va...
On a choisi une chanson qui déchire un peu. Là.
Oui, c'est ça.
Qui écorche. Mais c'est comme ça qu'on se sentait.
Ben c'est ça. Fait que ça s'appelle « Coma ».
Oui, « Dégoule ».
Dégoule. Fait que j'ai hâte à chaque 2 semaines d'avoir votre présence, Manon puis Florence. Merci infiniment.
À bientôt. Fait que,
pour
notre prochaine demi-heure, les membres aussi. De ma cabane, et on va parler bien sûr de beaux gros sujets, mais là on va groover ça. Ah!
Oh, suite.
Du 12 au 15 février, les équipes M18A et Junior C sont en action. Consultez l'horaire du tournoi en faisant le www.tpmjf.hockeysherbrooke.qc.ca.
Envie de fraîcheur, de saveurs méditerranéennes et d'un vrai voyage gourmand? À Sherbrooke, une seule adresse, Super Pita, 651 rue Queen Est. Ici, tout est préparé sur place chaque jour. Poulet mariné, brochettes savoureuses, falafel croustillant, gyros généreux et bien sûr les meilleurs chips grecs en ville. Découvrez aussi notre spécial du jour à seulement 14,99€. Toujours frais, toujours savoureux, toujours aussi abordable. Bonne nouvelle, pour les étudiants, un menu à seulement 12,99€, rapide, copieux et délicieux. À l'achat d'une assiette régulière, recevez des super puffs gratuits, des délicieux bouchées sucrées croustillants et gourmands, le véritable dessert qui fait parler en ville. Dépêchez-vous, les offres sont d'une durée limitée. Super Pita au 651 rue King S à Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Google Maps, DoorDash, Uber Eats. Super Pita, le goût méditerranéen et la fraîcheur à chaque bouchée. Numéro de téléphone 819-823-1753. Commande téléphonique acceptée.
CFLX en Estrie, c'est une radio pas pire pantoute.
CFLX 95.5 FM.
Oui, deuxième demi-heure de cette édition du bien sûr, le logement, un droit. Nous sommes le 12 février 2026 et je parle toujours de personnes engagées et inspirantes. Ben, on en a deux autres comme telles, leur première participation à l'émission. Mais Samantha, bonjour.
Bonjour.
Tu as déjà été ce bord ici du...
Oui.
Oui.
Avec la coop l'autre toit, oui.
C'est ça, et avec une émission qui parlait d'itinérance.
Oui.
Et donc, tu as été joué à ce bord ici, mais là, ça fait toujours curieux de se retrouver à l'autre bord. Hein.
Définitivement.
Et Marie-Lou?
Oui, allô?
Alors, généralement, toi, c'est toi aussi qui tiens le micro.
Généralement, la caméra.
La caméra, c'est ça.
Et le micro.
Et oui. Le micro. Et aujourd'hui, ben, vous vous retrouvez ici à l'émission. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait plaisir.
Quelqu'un qui entend ma cabane, ici. Je suis sûr à Sherbrooke, là, ben, les gens que tu leur demandes, c'est quoi ma cabane? Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. Est-ce que tu...
Oui, beaucoup.
Ouais.
Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi.
Ils peuvent penser que c'est un restaurant qui vient d'ouvrir, comme on l'a entendu.
En majorité, quand j'en parle aux gens, ma cabane, c'est comme, c'est quoi ça, ma cabane? C'est
oui.
Où, ma cabane?
C'est ça.
Puis là, justement, le mandat présentement, c'est vraiment de plus faire reconnaître l'organisme. C'est bien connu auprès de nos utilisateurs, mais... au sein de la population, je pense qu'il me manque encore un petit peu d'informations à ce sujet-là.
Oui.
Oui, tu voulais rajouter là-dessus. Non. Donc, effectivement, Samantha, tu as quand même aussi toute une expérience aussi d'accompagnement de personnes en situation de recherche de logement, puis tout ça. Tu as quand même tout un vécu derrière toi. Là.
Oui, j'ai travaillé 4 ans à la coop l'autre toit au projet Appart en stabilité résidentielle. Donc, le mandat était d'accompagner les gens en situation de vulnérabilité, d'itinérance ou à risque d'itinérance, de faire de la recherche de logement et de se maintenir en logement. Mais depuis juin 2025, là, je suis directrice générale au centre de jour Macabane. Fait que une autre mission, un autre mandat, c'est différent, mais c'est tout aussi palpitant.
Puis toi, Marie-Lou, tu avais une expérience aussi de travail avant d'aller à ma cabane dans ce domaine-là?
Bien, en fait, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis 2010.
OK.
J'ai œuvré auprès de plusieurs clientèles, tout en restant impliquée, tout en faisant du cinéma, tout en travaillant pour les médias. Une vie occupée, bref.
Ben oui.
Mais au niveau de l'itinérance, j'étais déjà impliquée dans plusieurs comités, dont le CA de ma cabane.
Ah!
Mais ça fait depuis janvier que je suis employée, depuis août que j'ai mon nouveau poste qui est au projet et au développement de partenariats au sein de ma cabane.
Alors, quand c'est né, justement, ce projet-là, parce qu'on sait actuellement, là, on a travaillé ça maintenant ensemble aussi au 1er juillet, on a vu comment c'est facile de trouver des logements pour les personnes.
Oui, c'est très facile.
Ah ouais, tu te claques les doigts, puis c'est ça. Et puis...
aucune contrainte.
Ben, les propriétaires, ils attendent, puis ils nous disent même... quel logement vous voulez? Là?
Oui, ils nous offrent une panoplie de choix. Il faut noter le sarcasme ici.
Oui, oui, c'est ça. Donc on essaie de...
Dans des immeubles adéquats, sans défaut, sans rénovation nécessaire, prêts à l'habitation, là, c'est une joie de travailler à la crise du logement.
C'est ça. Et cette crise-là, ben, amène justement l'itinérance.
Oui.
Et justement, là, toi qui as travaillé dans, avec des gens qui étaient en situation à risque, là, tu en rencontres à tous les jours.
Oui, tous les jours. Je dirais, 2025, là, on a eu, si je ne me trompe pas, 244 nouvelles personnes. C'est tout de même une baisse au niveau des entrées au centre de jour, au niveau des nouvelles personnes.
OK.
On peut quand même... on ne dit pas que l'itinérance, elle réduit, là. C'est que ma cabane commence à être connue de plus en plus. Comme Marie-Lou disait, là, il en manque un petit peu quand même, que ce soit au niveau des partenaires, pas juste dans le communautaire, mais au niveau des partenaires, que ce soit CIUS, que ce soit au niveau du service de police ou autre. Là, mais les gens de la rue nous connaissent de plus en plus, donc on a de moins en moins d'entrées parce qu'ils fréquentent nos services depuis un moment déjà.
On a de moins en moins de nouvelles entrées. Par contre, on n'a pas moins d'entrées nécessairement parce que je pense que, si je ne me trompe pas, le nombre total de personnes différentes d'entrée, c'est 21 008 pour l'année 2025.
Oui.
Quand même.
Oui. Pour 13 700 interventions.
C'est quelque chose, hein? Ouais. Puis, vous rappelez que vous êtes situé quand même près du centre-ville.
Oui, on est 46 Quignes, là. On est vraiment comme dans le centre dont le besoin est criant, là. D'avoir les services, de pouvoir se réchauffer, de pouvoir avoir des intervenants, de pouvoir se reposer de la rue aussi, là. Puis de se donner le droit de vivre un petit peu. À ma cabane, ils peuvent se donner ce droit-là de vivre.
Effectivement. Puis, tu sais, l'itinérance, souvent, certains politiciens ou politiciennes veulent la cacher ou des gens d'affaires. Il faut se battre contre ça aussi.
Oui, parce qu'on a le fameux phénomène de « pas dans ma cour ».
Oui, c'est ça.
C'est très populaire.
Oui, c'est ça. On a ça pour le logement social. On a ça pour aussi ma cabane. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient que vous soyez plutôt dans le quatrième rang du top.
Ce qui serait vraiment adapté à notre clientèle.
Ah, oui, je lisais quelqu'un là, un commentaire. C'est bien, mais les itinéraires, moi, ils vont sortir du centre-ville. J'ai lu ça, le commentaire de quelqu'un là, qui est animateur ici, que j'ai enlevé dans mes amis, parce qu'il a dit qu'ils les envoyaient en campagne. Bon.
Il y en a de l'itinérance en campagne.
Oui.
Dans les régions aussi.
Bien, on a vu
le
Haut-Saint-François dernièrement, justement. Oui. Il y a eu l'étude que vous avez sûrement vue.
Bien que c'est plus problématique en région parce que les services en place en région ne sont pas adaptés ou ne sont pas nécessairement prêts à accueillir une masse de gens en itinérance. Puis c'est un phénomène qui est de plus en plus criant, l'itinérance visible en région. Mais si on pense, par exemple, justement dans le Haut-Saint-François, l'itinérance existe depuis un bon moment, sauf qu'on a il y a énormément d'itinérances cachées.
Mm-hmm. Oui.
Les gens arrivent à mobiliser un petit peu plus le réseau parce que en région, c'est plus facile de se mobiliser. On dirait que les gens sont tous un peu plus proches. Là,
oui.
C'est vraiment une ambiance différente. Mais l'itinérance visible commence à se propager là, depuis quelques temps, voire quelques années là, en région. Fait que, là, c'est vraiment plus compliqué pour les régions.
Oui, puis il faut pas non plus se méprendre. C'est pas parce qu'un organisme est dans un lieu que c'est l'organisme qui crée l'itinérance,
ben
mais
non.
C'est plutôt, tu sais, le lieu a été choisi en fonction de notre clientèle,
ben
si
oui.
on veut, pour pouvoir rejoindre le plus grand nombre de personnes,
effectivement,
puis répondre à leurs besoins directement. Donc,
oui, puis on n'a pas juste des gens en situation d'itinérance. Là, on a des gens qui sont à risque, qui ont déjà des logements.
Oui.
On a des gens qui viennent, qui ne sont pas nécessairement à risque proprement dit, mais qui sont très isolés. Ils viennent briser l'isolement, ils viennent socialiser avec les intervenants, ils viennent jouer à des jeux, ils viennent lire des livres.
Participer à des projets d'activité.
Exactement. Donc, on n'a pas juste des personnes en situation d'itinérance. On a vraiment très large.
Puis on parlait justement de la Haut-Saint-François, puis ici à Sherbrooke aussi, des gens qui travaillent.
Oui.
Qui sont en situation, en risque d'itinérance.
Ou même en situation d'itinérance.
Qui travaillent, des personnes âgées, là, les petits vieux de mon âge, les petits vieux de mon âge, il y en a, là. Ça me fait peur, moi aussi, là, je regarde ça, puis je me dis, c'était désolant. Hein? Puis heureusement qu'il y a des personnes comme vous autres qui sont là.
Oui, l'itinérance n'a pas seulement un visage. Tu sais, souvent on voit le typique cliché du clochard avec son sac brun là, dans les publicités, mais c'est vraiment, nous, on peut dénoter que notre clientèle est majoritairement entre 40 et 60 peut-être, mais on a vraiment des gens de 14 à 78 ans, tu sais. Et on a des travailleurs, des gens qui ont des diplômes universitaires, autant que des gens sur l'aide sociale, c'est vraiment...
très varié.
Tout le monde peut en arriver là, surtout dans notre situation politique actuelle.
Oui, ah oui. des fois, on a travaillé ensemble, des fois, tu sais que j'étais sarcastique pour essayer d'oublier, mais
on minimise pas.
Mais de faire, parce qu'il reste effectivement que les paliers de gouvernement, quels qu'ils soient, là, cachent un peu ça pour essayer d'investir, par exemple, sur un beau terrain pour mettre un manège militaire, entre autres.
Entre autres.
D'ailleurs, ils devraient comprendre qu'eux aussi, ils sont à risque d'itinérance. Peu importe notre position dans la société, on est à risque.
Oui, parce que, tu sais, moi, on a travaillé avec des gens qui cherchaient des logements, puis à un moment donné, ces gens-là avaient un travail. Mm-hmm. Tout d'un coup, ils perdent leur travail, ils font un burn-out, ils deviennent... C'est propre... Personne n'est à l'abri de ça.
Non, puis souvent, la majorité des gens, on dit, sont à une paye de la rue.
Oui.
Parce que dans le contexte, justement, économique également, hein, ça va bien, politique, économique, tout le monde est plus à risque et vit à la paye. Donc...
ça arrive un imprévu, un problème... majeur, mais...
Un enfant qui tombe malade, ta voiture qui brise.
Oui.
Un conjoint qui décède, si on l'a vu.
Et chez les femmes, justement, souvent aussi, faut parler d'itinérance au féminin.
Oui.
Vous recevez sûrement aussi beaucoup de femmes.
Oui. Puis l'itinérance au féminin, qu'est-ce qui est différent? C'est qu'il y a beaucoup d'itinérance cachée. Parce que souvent, étant une femme en... tu peux être plus vulnérable à plusieurs aspects, donc ils se font utiliser pour avoir un logement, des trucs comme ça. Mais oui, on en voit...
Un lit, c'est ça.
Pour un lit, un toit, certaines personnes voient qu'ils sont vulnérables, donc ce sont des proies faciles. Puis pas juste ça, là, quand tu es en situation d'itinérance, que tu es une femme, bien, il y a tout l'enjeu sanitaire. Ouais. Tu sais, il y a des produits sanitaires que nous, d'ailleurs, on récolte à ma cabane, qu'on offre, mais il faut quand même penser à ça, que les normes sont pas équitables pour tous. Puis aussi, bien, ils sont plus en danger, on se le cachera pas, là, parce qu'ils sont plus vulnérables. Ouais. Fait que c'est ça.
Quelque chose quand même, puis je me dis, puis on voit dans les villes, dernièrement, je voyais à Magog que le service, justement, il y a comme un autobus qui se promène, là, qui est en train de tomber aussi.
Macadam?
Non.
Non, c'est... je me souviens pas du nom de l'autobus qui fait le tour, puis je sais qu'il y a des étudiateurs, il a dit aux nouvelles, puis ils l'ont mis textuellement, tout à part qu'il dit, on va faire une levée de fond calice. Mais parce que, justement, puis souvent aussi, dans certaines villes, comme touristiques, ça paraît moins bien.
Exactement.
Il y a quelques années, à Granby, le maire de l'époque voulu fermer le comptoir alimentaire parce que pour les touristes, ça paraissait pas bien. Donc, tu sais, je me dis, c'est un phénomène qui se fait encore, de fermer des services parce qu'on veut préserver l'éthique.
Mais oui, puis aussi, je sais pas si c'est une pratique qui est encore actuelle, mais dans certaines villes, payer des billets de bus aux personnes en situation d'itinérance vers les grands centres.
En région. Ça. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut.
Mais ça se faisait à Sherbrooke, là.
À l'époque,
que vous soyez au monde, là. Mais quand moi, je l'étais, là. ici, à Sherbrooke, les polices arrivaient. Ah, itinérant, toi, attends. Bien, aller pour Montréal. Ouais. Parce qu'on ne voulait pas voir à Sherbrooke. Mais ils ont manqué. Il n'y avait plus d'autobus assez disponible, là. Mais il reste que c'était un phénomène. Puis ça, c'est pas des farces, là.
Ça fait pas si longtemps que ça, non. Quand tu y penses.
Non, c'est ça. Donc, ça veut dire que pas dans ma cour, pas dans mes rues.
Exactement. C'est un peu contradictoire, pas dans mes rues, mais on s'organise pour couper des services pour qu'ils soient de plus en plus dans la rue.
Effectivement. Quand on parle de services, justement, vous en offrez?
Oui.
Des services?
Oui. On offre du soutien psychosocial, La plus grande force, c'est le référencement. Là, on ne fait pas de suivi, là, mais on accompagne les gens dans des démarches. On donne accès à des téléphones, on donne accès à des ordinateurs pour qu'il y ait accès à Internet, à le courriel, puis tout ça, parce qu'il y a de plus en plus de demandes aussi pour des logements qui se font par Internet. Mm-hmm. On donne accès à une douche pour que les gens puissent se laver, à des sanitaires, donc les toilettes, laver sécheuse pour qu'ils puissent laver leur linge. Oui. On donne une salle de repos pour ceux qui n'ont pas pu dormir de la nuit. Ça leur permet de venir se reposer au matin. Là, ils viennent dormir dans le jour avec nous. Ils viennent boire du café, ils viennent jouer à des jeux, ils viennent participer à des projets. Là, je vois ça comme offrir une opportunité de rappel, là, dans le sens où on leur rappelle que vivre, c'est pas un droit. Tout le monde peut vivre. Oui. C'est pas parce qu'on est dans la rue ou en situation à risque que ça devient un luxe de se permettre de vivre. Donc, je pense qu'on donne des opportunités à ces gens-là de se rappeler qu'ils ont le droit de vivre et d'avoir du fun aussi, une fois de temps en temps, avec le poste de Marie-Lou.
Oui. Bien, justement, en créant des opportunités comme propices à la création de liens, mais on peut aller plus loin avec eux. Comme là, présentement, mon poste permet de faire plusieurs activités, dont un projet bande dessinée qu'on fait à chaque 2 semaines. Puis avec ce projet-là, on apprend des choses sur certains utilisateurs, utilisatrices qu'on n'aurait pas pu avoir en discussion ou comme ça. Ça fait que c'est un autre médium pour aller chercher de l'intervention, des informations pour améliorer nos interventions. On va au cinéma. Tu sais, ça paraît banal pour plusieurs personnes, mais aller s'asseoir pendant 1 heure et demie de temps dans des bancs confortables avec un popcorn, c'est un luxe quand tu sais même pas où tu vas dormir le soir.
Effectivement.
Puis plusieurs choses comme ça qu'on essaie de faire dans la collectivité et d'apporter la collectivité à venir à ma cabane aussi offrir des services comme on a eu un atelier de plantes, on a eu un atelier de création de capteurs de rêve pour créer le pont vraiment avec la communauté et nos utilisateurs pour que les gens arrêtent d'avoir peur en fait parce que dans le fond la peur vient souvent de l'ignorance.
Oui.
Donc on essaie de créer un pont entre la collectivité, nos utilisateurs tout en offrant des activités ludiques mais qui ont un objectif de réadaptation derrière.
On offre des soins de pied aussi aux gens.
Oui.
Une fois ou 2 semaines, on a les dépistages avec le CIDEP, on a les infirmières du CIUS. On a aussi les travailleurs sociaux de l'équipe Axel avec le CIUS qui viennent les lundis pour donner accès au service du CIUS, là, parce que c'est pas avec les intervenants du communautaire que ça facilite le chemin là, avec le CLSC. Donc, on a un partenariat aussi avec l'équipe Axel du CIUS, là.
Quelque chose quand même. C'est intéressant parce que, tu sais, moi, je me dis que c'est tout important d'en parler puis de le publiciser parce que c'est quelque chose qui est moins publicité que les Olympiques, là, ou que le patinage artistique, là. Mais je me dis, c'est quelque chose, là, vraiment qui est, selon moi, pas assez connu.
Oui, puis en effet.
Comme tel, puis je me dis, et encore là, comme, tu sais, les préjugés. Que, et les gens arrivent, on ne vient pas itinérant parce que plusieurs disent « Ah, parce que on a vu il y a quelques années avec quand les gens étaient près du pont puis comment ça a été traité, là, ben, tu sais, je me dis, il y a plein de préjugés. Puis déjà, en partant, ces gens-là, de se présenter chez vous, le premier regard qu'ils veulent, le premier mot, c'est d'être
reconnu.
Exactement.
Non, on peut démystifier pouvoir et vouloir, là. OK, c'est deux choses différentes, là. On va souvent entendre les gens dire « Ouais, mais ils veulent pas. » Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Moi, je vais rester dans la rue. Moi, je veux aller dans la rue, puis je vais y rester. »
C'est ça. Personne, mon but, hein, si tu veux en envie, t'es là. Hein, tu vas être dans la rue. Hein,
Après, le pouvoir de s'en sortir, pouvoir avoir accès à des soins de santé, pouvoir avoir un chemin facilitant et compréhensible pour atteindre, pour avoir un chèque d'aide sociale, pour avoir... Peu importe, là, pour que ce soit... facile puis user-friendly. Là. Désolé de mon anglais. Là, mais...
No problem.
Fait que, y a rien qui est facile d'en reprendre sa vie en main. Il n'y a rien qui est facile de récupérer des documents pour pouvoir faire des demandes officielles. Les chemins sont compliqués puis ardus. Fait que, est-ce que ces gens-là veulent rester dans la rue? Je pense pas, mais je crois certainement que le système en soi va compliquer le chemin. Là. Fait que pouvoir est pas mal diminué. Là.
Exactement. Et puis c'est ça. Puis, vous êtes combien qui travaillez dans... Là?
Là, j'ai une équipe de 5 personnes.
Quand même.
Plus moi, fait que 6.
Mais sur le plancher, on n'est pas les 5 en même temps. Là, okay. Mais
c'est 3 intervenants de plancher tous les jours.
Et du matin?
de 9h30 à 4h30, sauf les mercredis de 12h30 à 4h30.
Quand même, c'est ça, parce que, évidemment, ce qui est toujours aussi le défi, que tous les organismes ont, c'est le financement, parce que ça aussi, c'est un autre défi comme tel. Là, on met moins d'argent là-dessus que pour acheter des terrains pour le manège militaire, comme tel. Je vous donne l'exemple parce que c'est assez... Je ne sais pas si vous avez vu ça, là. Ils ont,
c'est d'actualité.
Ils ont acheté un terrain qui vaut trois fois le prix qu'il valait. Ah, t'es pas pire d'en mettre un peu pour un petit don à ma cabane, hein?
Exactement.
Oui, quand même.
Mais le financement demeure, pour tous les organismes, un défi.
Essentiel. Oui. Puis, tu sais, on l'a pas nommé, mais c'est de 80 à 120 personnes par jour qui passent. Différentes qui franchissent notre porte à ma cabane. Et nous, l'accueil est primordial aussi, donc on les appelle par leur prénom, on leur regarde dans les yeux, on leur redonne leur dignité de cette façon-là. Donc, oui, on a prouvé que ma cabane est essentielle maintenant, le financement. Il faut qu'ils suivent.
Exactement, parce que s'il n'est pas là, on voit des abandons de services. Je parlais de l'autobus à Magog, là, justement, qui perd son financement. Bien, je me dis, là, parce que quand les gens trouvent un endroit pour être accueillis, ils risquent moins qu'ils se retrouvent à l'hôpital.
Puis contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, là, les gens qui viennent à ma cabane respectent ma cabane. Il y en a beaucoup qui vont nettoyer la salle, il y en a beaucoup
encore
qui
là,
vont nourrir les plantes.
Il y a des préjugés, là, encore
ils,
là.
Ils participent, là, ce matin encore, on avait des gens qui s'étaient portés volontaires pour donner un coup de pelle devant la devanture pour enlever un peu de neige. Les plantes, et ouais. C'est incroyable, là, ils sont super engagés dans notre milieu.
Puis justement, le nom « ma cabane », c'est « ma ». Ça devient comme...
C'est leur cabane. Mais on dit souvent « ma cabane », c'est « ta cabane », c'est « ma cabane », c'est « sa cabane », c'est « leur cabane ». Dans le fond, c'est à tout le monde, parce qu'on veut que les gens se l'approprient pour créer le sentiment d'appartenance. Ouais.
C'est effectivement, puis je pense que ça enlève beaucoup de préjugés, puis je pense qu'on va inviter les gens à réécouter puis à vous réinviter aussi comme tel, parce que je me dis, moi, je connais le domaine, parce que je travaille là-dedans depuis des années, mais il reste que beaucoup de gens, comme tu as dit, là, doivent découvrir ce que vous faites.
Puis c'est nos utilisateurs, là, c'est tous des gens à découvrir. Là. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on ne rit pas avec eux autres.
C'est ça.
Il y a toujours quelque chose qui fait que la journée s'embellit.
C'est ça.
Je pense que c'est tous des gens à découvrir au-delà de ce qu'ils peuvent laisser paraître ou au-delà de ce que les autres peuvent voir en extérieur. C'est des vraies petites mines d'or.
Oui. Puis si les gens veulent en apprendre plus, on a un site Internet.
Oui.
Oui. macabane.org.
Et à ce moment-là, on découvre justement ce que vous faites comme tel. Puis là, je vois aujourd'hui, vous avez des compagnies de stagiaires aussi, donc qui découvrent aussi dans leur cheminement ce domaine-là.
Oui.
Je peux vous dire, les deux stagiaires, là, vous avez deux modèles là, avec vous autres, là, d'engagement, parce que c'est important, parce que je me dis, on a tellement à faire, puis on parle de logement social on dirait que c'est un mot qui ont de la misère à comprendre.
À bâtir, là, ça dépend.
Oui, ils se bâtissent beaucoup de logements. Oui, mais c'est parce que c'est pas... Je pense pas que...
Ils ont oublié de marquer social.
Oui, ils ont de la misère à le dire. Comme j'avais dit, j'ai dit, moi, M. Carney peut le dire, social housing. Hein? No problem.
No problem.
Moi, je mets qu'ils disent ça, mais l'important, c'est d'arrêter de dire abordable.
Abordable.
Oui, parce que abordable pour le marché n'est pas le même que la signification que le communautaire donne.
C'est relatif, l'abordabilité.
Oui, effectivement. Ouais. Fait que, puis évidemment, comme vous dites, les gens que vous recevez, plusieurs...
ne peuvent pas se payer.
Se payer un logement tout court au prix qui est
ou
rendu.
Même une chambre, des fois.
Oui, le prix des chambres est devenu...
Même que le prix d'un 3,5 à l'époque.
Mm-hmm. Oui, à l'époque, c'est ça. À l'époque.
Quand j'avais 2 ans.
OK. OK. mais il reste que c'est quelque chose. Puis comme vous dites, là, aujourd'hui, là, je vous remercie de votre présence. Je sais qu'ici, tu as fait beaucoup avec le travail aussi, Samantha, avec justement les intervenants au niveau de l'itinérance. Puis si jamais des fois vous avez le goût de revenir plus souvent pour parler de réalité, même des fois, pour être intéressant, tu as déjà fait avec des gens qui vivent la situation.
Mm-hmm. Oui, 100%.
Leur donner une voix.
Mm-hmm.
Définitivement.
Parce que on a eu une émission, justement, Benoît.
Oui.
Qui était justement quelqu'un qui est parti de très difficile, puis qui a pris le micro.
Oui.
Mais moi, ce que je vous offre, là, c'est justement de revenir avec vous autres, mais aussi d'avoir des gens qui vivent, puis qui aient la parole.
Ben oui.
Oui.
Puis en plus, ça va totalement dans le sens de ce qu'on veut faire et les projets qu'on veut développer. Photo, vidéo qui s'en vient, qui va être pour donner une voix à nos usagers aussi. Fait que
tu connais ça un peu, Magali, ou photo?
Photo, vidéo, à peine.
Oui, c'est ça.
Ben, c'est une nouvelle opportunité.
Oui. Maman, je vous l'offre, là, comme vous dites. Ben, franchement, parce que j'ai vu quand Benoît là, a fait l'émission, je l'accompagnais à la technique, et il a fait un beau cheminement d'arriver à avoir la parole, alors qu'il avait... Il le disait lui-même, là, je révèle pas sa vie. Il le disait très clairement ce qu'il avait vécu. Ben, je me dis, moi, je vous offre ce micro-là aussi à vous autres, puis à les usagers et usagères, pour qu'on justement qu'on démystifie puis d'arrêter de. Parce qu'il y a encore des préjugés. Je pense mm-hmm. que vous devez l'entendre, peut-être même des fois dans vos propres familles ou dans les gens que vous rencontrez. Moi, je l'entends aussi. Puis pour justement leur donner ce micro-là.
Ben oui, ça serait super apprécié. Arrêter d'invisibiliser les gens, leur donner une voix, déjà là, c'est un grand pas vers le pont, vers la collectivité.
Ben merci à vous deux. On rappelle que l'émission est en rediffusion dès demain sur notre site Internet. À réécouter avec plaisir, puis de se donner justement un rendez-vous pour donner encore la parole aux personnes. Fait que on se laisse là-dessus à la programmation de CFLX.
Merci Alain.
Et puis on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour une autre émission. Logement un droit.
Il est midi 58 minutes.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
En 2026, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke propose une offre spéciale de mi-saison. Assistez à trois grands concerts classiques proposant un répertoire incontournable. Les deux concertos de Ravel, la Grande Symphonie de Schubert, en passant par la célèbre Symphonie pastorale de Beethoven. Pour seulement 160 $, toutes catégories de prix confondues, profitez de plus de 25% de rabais. Offre valide jusqu'au 22 février. L'OSS, vos rendez-vous symphoniques en Estrie.
Cette année encore, vibrez au rythme du Phoenix de Sherbrooke. Des matchs captivants et une ambiance électrisante. Vivez l'intensité du hockey junior à son meilleur avec le Phoenix face aux autres équipes de la Ligue de hockey junior Maritime.